Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 janvier 2021. John Linden à la présentation, tout d'abord les titres. En République centrafricaine, l'opposition conteste la victoire annoncée de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle. Dans le nord-est de la RDC, au moins 21 civils tués dans un nouveau massacre attribué aux rebelles ADF. Washington et l'Union européenne critiquent l'Iran après sa décision d'enrichir l'uranium à 20%. Ici aux États-Unis, deux élections sénatoriales partielles mais cruciales se jouent aujourd'hui dans l'État de Géorgie. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. En République centrafricaine, l'opposition conteste donc la réélection du président Faustin Archange Touadéra. En attendant la confirmation des résultats provisoires, l'actuel président est déjà bien placé pour amorcer son deuxième mandat. Eric Manirakiza.
L'opposition dénonce une mascarade et crie à la fraude massive. Hier soir, l'autorité chargée des élections a annoncé que le président Faustin Archange Touadéra a recueilli 53,92%, la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour, le 27 décembre. Anissé Georges Dologuélé, arrivé deuxième avec 21,01% des voix, a rejeté ses résultats provisoires et promet de déposer un recours. Je ne donne aucun crédit à ces résultats, c'est une mascarade, une honte pour notre pays, a renchéri Martin Ziguélé, troisième, avec 7,46%. Les résultats sont proclamés, c'est un vote de rejet de la violence, et se félicite Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement, qui défend des élections crédibles. La Cour constitutionnelle a jusqu'au 19 janvier pour valider ou invalider ses résultats après les recours annoncés par l'opposition. L'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU, dans une déclaration conjointe, ont pris note des résultats en saluant la détermination des Centrafricains à exercer leur droit de vote malgré les nombreux obstacles.
Au moins 21 civils ont été tués de manière sauvage dans un nouveau massacre attribué aux combattants des ADF. Les forces démocratiques alliées dans le secteur de Rwenzori, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources onusiennes et locales. Les ADF ont tué, nous venons de perdre 22 personnes, dont 10 femmes, a dit de son côté Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. L'armée est intervenue après que le forfait a été commis, a-t-il ajouté. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque qui a coûté la vie à deux soldats français samedi au Mali. Dans un communiqué authentifié par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes Site et publié sur sa plateforme de propagande Al-Zalaga, le groupe qui dénonce notamment le passé colonial français confirme avoir fait exploser un engin au passage du véhicule de deux soldats de la force anti-djihadiste Barkhane, dont une femme portant le bilan total à 5 morts en moins d'une semaine. L'ONU a annoncé mardi l'ouverture au Soudan d'un deuxième camp pour des réfugiés éthiopiens dont plus de 56 000 ont déjà franchi la frontière fuyant le conflit dans la région du Tigré. Le camp d'Oum Rakouba approchant sa pleine capacité, l'OHCR et ses partenaires s'efforcent de déplacer rapidement des réfugiés qui arrivent vers le nouveau camp de Tinagba. En France, Roger Lumbala, un ancien chef rebelle de la République démocratique du Congo, a été mis en examen et incarcéré à Paris. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Âgé de 62 ans, Roger Lumbala, ancien député d'opposition, dirigeait le RCDN, un groupe armé fondé en 1998, accusé dans plusieurs rapports des Nations Unies de viol, d'exécution sommaire, d'enlèvement, de mutilation et de cannibalisme dans l'Itourie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le point sur la pandémie de COVID-19 dans le monde, le Rwanda fait face à une deuxième vague pendant que les États-Unis enregistrent un premier cas du variant apparu en Grande-Bretagne. Beaucoup de pays reviennent au confinement. Yakuba Ouidraogo nous fait le point.
Le gouvernement rwandais a annoncé de nouvelles mesures pour 15 jours. Le couvre-feu nocturne entre 20h et 4h est étendu et toutes les entreprises doivent fermer à 18h. Il est interdit à tous les véhicules publics ou privés d'entrer ou de sortir de Kigali et de se déplacer entre les différents districts. Seuls les déplacements pour des raisons médicales et pour les services essentiels sont autorisés. Par contre, les véhicules de transport de marchandises continueront à opérer avec un maximum de 2 personnes à bord. Les bars et les boîtes de nuit sont fermés depuis mars. Le gouvernement affirme être en contact avec les fabricants du vaccin AstraZeneca et la société américaine Moderna pour acheter des doses pour les Rwandais les plus vulnérables. Ici aux États-Unis, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé qu'un premier cas du variant du coronavirus apparu en Grande-Bretagne, plus contagieux, a été détecté dans son État. La personne concernée n'a pas voyagé récemment, ce qui pourrait être le signe d'une contamination communautaire, d'après M. Cuomo.
Boris Johnson a annoncé lundi un reconfinement en Angleterre pour tenter de contenir la seconde vague de COVID-19. Avec l'espoir de pouvoir vacciner près de 14 millions de personnes d'ici mi-février comme porte de sortie face à la progression alarmante d'un variant du virus plus contagieux selon les scientifiques britanniques. Le premier ministre britannique a précisé que les écoles seraient fermées à partir de ce mardi et que quitter son domicile ne serait autorisé que pour des cas précis. Le gouvernement français a annoncé un élargissement de la vaccination contre le COVID-19 face aux critiques sur la lenteur du démarrage de cette campagne. Le gouvernement va ainsi permettre dans les prochains jours aux Français qui souhaitent être vaccinés de s'inscrire en vue de prendre rendez-vous. Cette inscription se fera sur Internet et sur certaines applications. Les États-Unis et l'Union européenne ont critiqué la décision de l'Iran qui annonce avoir entamé le processus d'enrichissement de l'uranium à 20%, bien au-dessus de la limite fixée dans l'accord nucléaire de 2015. Le point avec Abdourahman Dia.
Un porte-parole du département d'État américain, sous couvert d'anonymat et cité par l'agence Reuters, a accusé Téhéran de mener ce qu'il appelle une campagne d'extorsion nucléaire, une tentative qui continuera à échouer selon lui. L'Union européenne a pour sa part indiqué qu'elle allait redoubler d'efforts pour préserver l'accord compromis par la décision jugée regrettable des autorités iraniennes de lancer le processus de production d'uranium enrichi à 20%. Cette action constituera un écart important par rapport aux engagements nucléaires de l'Iran, a déclaré ce mardi Peter Stano, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé hier lundi que l'Iran avait commencé le processus pour passer de 4,1 à 20%. L'Union européenne a insisté ce mardi sur l'importance d'éviter toute mesure qui pourrait compromettre la préservation de cet accord. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a exprimé son intention de revenir à l'accord que Donald Trump a quitté en 2018.
L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, est arrivé mardi en Arabie Saoudite pour participer à un sommet des pays du Golfe, une première en 3 ans de froid diplomatique et au lendemain de la réouverture des frontières entre les deux pays. Le dirigeant de l'émirat Ghazi a été accueilli avec une embrassade par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman sur le tarmac de l'aéroport d'Al Ula dans le nord-ouest du Royaume, selon les images diffusées par la chaîne de télévision d'État saoudienne Al-Ekbaria. Ici, aux États-Unis, les électeurs de Géorgie se rendent aux urnes mardi pour une double élection qui scellera le sort du Sénat américain et dont l'impact sera décisif sur les premières années au pouvoir de Joe Biden. Claire Morin-Gibourg.
Le scrutin entre démocrates et républicains s'annonce serré et les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours. 832 millions de dollars ont été dépensés dans la campagne, selon le Center for Responsive Politics, un organisme indépendant retraçant l'utilisation de l'argent dans les campagnes. Plus de 3 millions d'électeurs, un nombre record pour une sénatoriale partielle en Géorgie, sur quelques 7 millions d'inscrits, ont déjà pu voter par anticipation. La mobilisation est à la hauteur des enjeux. Ce seul État peut changer la trajectoire, non seulement pour les 4 années à venir, mais pour la prochaine génération, a lancé Joe Biden lundi à Atlanta. Dans un grand meeting, le président républicain Donald Trump a affirmé que ces élections partielles pourraient être la dernière chance de sauver l'Amérique telle que nous l'aimons.
Nous reviendrons sur ces élections en Géorgie dans la partie magazine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
L'Africa Finance Corporation, principal fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, a obtenu un prêt de 250 millions de dollars auprès de la Société de financement du développement international des États-Unis. Ce prêt permettra à l'AFC de renforcer sa capacité d'investissement de solutions de financement compétitives pour combler le déficit d'infrastructures de l'Afrique et doit permettre une meilleure diversification de ses investisseurs. Le Sénégal poursuit les efforts de modernisation de son réseau routier. En 2020, 9 projets routiers ont permis de bitumer 420 km de routes et ponts. Parallèlement, des investissements ont également été consentis dans l'entretien des pistes rurales, dont le réseau sera renforcé dans le cadre de la deuxième phase du programme d'urgence de développement communautaire. En République démocratique du Congo, la BGFI est la première banque et l'une des rares d'Afrique subsaharienne à avoir reçu la certification AML 30000, la norme internationale conçue pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Les rencontres retour du deuxième tour préliminaire des matchs interclubs ont commencé ce mardi sur le continent. En Ligue des Champions, victoire sur tapis vert pour les Égyptiens du Zamalek face à leur adversaire tchadien de la Gazelle. Toujours ce soir, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns offrent l'hospitalité aux Botswanais de Swaneng Galaxy. Et puis, à Casablanca, le Raja reçoit Teguff du Sénégal. Demain, le Wydad Athletic Club de Casablanca reçoit le Stade malien de Bamako. À l'aller, à Bamako justement, les Maliens se sont imposés 1-0. Selon leur coach, Rigo Gervais, ces poulains joueront leur chance pour la qualification aux phases de poule.
On a beaucoup axé la dernière partie sur l'endurance dans la vivacité parce que c'est l'option qui va s'imposer à nous là-bas. Donc nos joueurs doivent répondre offensivement ou défensivement à ces deux données-là. Surtout être bien dans la tête, sur le mental, ne pas reculer, les regarder droit dans les yeux, jouer clairement nos chances de qualification qui est très possible.
Rigo Gervais, coach du stade malien de Bamako, au micro de Siaka Traoré. Toujours demain mercredi, victorieux au match aller 2-1, le tout-puissant Mazembe reçoit Bougwendi du Gabon au stade Kamalondo de Lubumbashi. Pamphile Miayo, promu pour la deuxième fois entraîneur titulaire du TP Mazembe, promet la qualification de ses garçons pour la phase de groupe.
C'est la qualification qui prime, surtout. Je crois qu'avec ces peu de temps que j'ai eu à récupérer cette équipe, mais on est en train d'essayer de travailler encore un peu plus durement sur tout le plan pour pouvoir montrer quand même une belle image. Il faut gagner, il faut marquer des buts et il faut faire donner du plaisir, de la joie au public, donc c'est faire le jeu.
Pamphile Miayo, coach du tout-puissant Mazembe, au micro de Lucien Kaouzi, notre correspondant Swahili à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. En coupe, Kafa Manungu de la Tanzanie a validé son ticket pour le tour suivant. Malgré son match nul 3-3 face au Soudanais Dal Hilal El Obed, 2-0 pour la JS Kabylie d'Algérie qui élimine du même coup l'US Gendarmerie Nationale du Niger. Ici aux États-Unis, la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, a été placé sur la liste des absents pour le match NBA contre Utah ce soir afin de se plier au protocole sanitaire lié au COVID-19, a annoncé son club. Selon les sites ESPN et The Athletics, Durant devrait en fait manquer les 4 prochaines rencontres de son équipe en observant une quarantaine d'une semaine. Ce protocole est prévu pour un joueur étant cas contact ou ayant été exposé au coronavirus alors qu'il était en rééducation après son opération d'un tendon d'Achille rompu. Keïdi a contracté le virus en mai dernier. Selon ESPN, il produit toujours des anticorps et tous ses tests passés sont revenus négatifs depuis lors.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par la RCA. La RCA, où, au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre, les contestations fusent au sein de la classe politique. Certains candidats rejettent la victoire annoncée de Faustin Archange Touadéra et comptent saisir la Cour constitutionnelle. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Après plusieurs heures de suspens, le président de l'autorité nationale des élections, l'agence chargée des élections, Mathias Barthélémy Mourouba, a annoncé ce lundi 4 décembre dans la soirée.
Conformément aux dispositions de l'article 114 du code électoral, monsieur Faustin Archange Touadéra, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 avec 346 687 voix, soit 53,92%, est déclaré élu.
Bien que déclaré vainqueur de la présidentielle, Faustin Archange Touadéra a préféré garder le silence en attendant la validation par la Cour constitutionnelle. Même si dans son camp, la liesse est visible, le président réélu, selon l'autorité nationale des élections, se veut prudent. Au sein de l'opposition, la réaction n'a pas tardé. Anissé Georges Doleguélé, le principal challenger de Touadéra, qui a recueilli 21,01% de voix, ne reconnaît pas ses résultats et compte saisir la Cour constitutionnelle.
Je suis un républicain, obstiné et impénitent. Je suis un homme épris de paix et de justice. Et c'est précisément à cause de ces valeurs que je ne m'associerai pas à cette escroquerie électorale. Je ne reconnais donc pas ces résultats provisoires et déposerai un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
Martin Ziguilé, sorti troisième avec 7,46% des voix, dénonce lui aussi des irrégularités.
Je note simplement que depuis que ces élections se sont organisées, nulle part nos représentants n'ont eu droit à un procès verbal. Nulle part les résultats n'ont été affichés pour l'attention des témoins et de toute personne qui souhaiterait voir les résultats. Devant cette situation, nous sommes un parti républicain, nous nous réunirons, mais la décision que nous prendrons, c'est d'abord d'user de toutes les voies de droit.
Contestation, mais aussi appel au calme et à l'unité, l'opposant Eddy Symphorien Parikouti réagit depuis la Tanzanie, son pays de résidence.
Que ce soit des élections bâclées, que ce soit des élections crédibles, que ce soit des élections transparentes, mais sinon les Centrafricains ont été le 27 pour voter. Avant les élections, on se disait on doit respecter les institutions de la République. Après la proclamation définitive, on doit toujours respecter les institutions de la République parce qu'on savait tous qu'il ne pouvait pas avoir des élections crédibles et transparentes dans des conditions de guerre, dans des conditions que le groupe armé occupe encore 80% du territoire centrafricain.
Depuis la publication de ces résultats provisoires, les activités tournent au ralenti dans la capitale. Plusieurs écoles et commerces n'ont pas ouvert leurs portes ce mardi par crainte d'actes de violence. Les résultats définitifs de cette présidentielle seront connus le 19 janvier selon un calendrier officiel de la Cour constitutionnelle. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique 24 heures sur 24 en République centrafricaine à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Tchad, la population de N'Djamena vit au rythme du confinement pour contenir la propagation du Covid-19. Mais les ministres chargés de l'application de cette mesure n'interprètent pas le document de la même manière. La corporation des journalistes menace de cesser toute activité si les autorités ne prennent pas un acte pour les protéger des bavures policières. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, fait le point.
Depuis le 1er janvier 2021 à minuit, le décret portant confinement de la ville de N'Djamena et instaurant le couvre-feu de 18h à 5h du matin est entré en vigueur. Les N'Djaménois sont terrorisés. Tout le monde a peur non seulement du Covid-19, mais aussi peur de recevoir les coups de crosse et matraques des forces de l'ordre. Ces éléments empêchent par tous les moyens certains citoyens qui veulent exercer des activités informelles pour assurer leur survie. Ils font de l'excès de zèle suite à l'interprétation du dit écrit par le coordonnateur de l'action gouvernementale, selon lui, personne ne doit sortir de chez lui. Plusieurs journalistes sont également brutalisés alors qu'ils bravent tous les risques pour informer la population sur des mesures prises par le gouvernement. Colère du président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mahmoud Tahir.
Nous en appelons au bon sens du gouvernement de prendre une autre décision permettant aux journalistes d'évader à leurs occupations pendant cette période d'exception. Sans quoi, nous serons dans l'obligation de convoquer une rencontre d'urgence et appeler les médias, les journalistes et les techniciens à rester chez eux jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, tente de calmer le jeu. Pour lui, le décret fait mention plutôt de confinement de la ville et non de la population.
Il s'agit d'un confinement de la ville, c'est-à-dire son isolement par rapport à ses liaisons avec le reste de la ville. Non pas dans ce décret une édition des confinements de la population. Cet acte du chef de l'État doit s'appliquer sans restriction, mais également sans extrapolation.
L'universitaire Dr Sitak Yombatina Beni estime que les deux ministres font une lecture erronée du texte.
Le décret, il est clair. Mais quand vous dites aux gens ne venez pas au travail, quand vous dites aux étudiants, aux élèves ne pas aller à l'école, quand vous dites aux femmes de fermer la boutique, quand vous dites aux gens, n'est-ce pas, de ne pas voyager, quand vous fermez, n'est-ce pas, les frontières terrestres, aériennes, etc. Mais c'est pas le confinement, c'est quoi ça? On appelle ça quoi? Donc, la confusion, c'est le ministre de la Santé même qui l'entretient, avec son ministre LGP.
Pour les organisations de défense des droits de l'homme, le décret en lui-même comporte trop de lacunes et restreint la liberté publique. Maître Mbayambe Ndoleta, avocat au barreau du Tchad et vice-président du conseil de gouvernance associative de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad.
Avec une quarantaine de cas, est-ce que logiquement ça vaut un confinement? Le fond du décret est une entrave grave aux libertés individuelles et collectives. C'est quelque chose qu'on a conçu dans le lieu malsain. Ça veut dire qu'il y a un objectif inavoué.
La présence massive des éléments de force de l'ordre dans les ronds-points et grandes artères suscite un certain nombre d'interrogations. La ville est-elle en état de guerre où le virus circule-t-il librement dans le rond-point et ne respecte pas le feu rouge sur les grands axes de la capitale? Ou peut-être encore, ces membres de forces de l'ordre sont-ils immunisés contre le coronavirus? Voilà de nombreuses questions qui taraudent l'esprit des citoyens, mais qui sont restées jusque-là sans réponse pour le commun des mortels. André Kodouma Dingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, à N'Djamena. Mina Otiad sur 93.1 FM.
Les 6 pays arabes du Golfe ont signé un accord de solidarité et de stabilité lors du sommet du Conseil de coopération du Golfe destiné à mettre fin au blocus contre le Qatar. Les dirigeants du groupe régional ont signé la déclaration d'Al-Ula en Arabie Saoudite en présence de Jared Kushner, genre et conseiller du président américain Donald Trump. Les États-Unis ont contribué aux efforts de rapprochement en vue de contrer la menace nucléaire iranienne. Nathalie Bage a demandé au politologue Jean-François Seznec quels sont les enjeux majeurs de cet accord.
C'est un accord important parce que ça fait revenir le groupe de coopération du Golfe ensemble. Ils étaient séparés depuis 3 ans. C'est très important au point de vue stratégique parce que ça veut dire que maintenant l'Arabie Saoudite et le Qatar et les autres pays du Golfe en fait sont réunis à nouveau et peuvent maintenant beaucoup plus facilement se défendre contre l'hégémonie iranienne. Je pense que l'Iran est la clé de cet accord dans un sens.
Dans quelle mesure les États-Unis et même le Koweït ont-ils permis d'obtenir un tel accord?
Les États-Unis, tout simplement parce que le président Trump et surtout son beau-fils voulaient absolument obtenir un accord. C'est un accord qui sera très favorable à long terme à Israël et donc à l'intérêt américain en Israël. Et tous les pays du Golfe sont unis maintenant avec Israël contre l'Iran. C'était vraiment une des clés de la politique de Jared Kushner.
Là, on est sur le plan militaire. Au niveau économique, qu'est-ce que cela représente, notamment avec l'ouverture des frontières entre l'Arabie Saoudite et le Qatar ?
C'est important pour beaucoup de gens. Par exemple, la plus grande laiterie de toute la région et presque du monde, d'ailleurs, est en Arabie Saoudite et vend énormément de produits au Qatar. Bon, maintenant, ils vont pouvoir recommencer. Alors, c'est important, mais c'est pas, au point de vue montant d'argent, c'est pas énorme, si vous voulez, parce que le Qatar est quand même un très petit pays, hein.
Au plan politique, est-ce que l'on a une nouvelle configuration au niveau de cet accord ? Est-ce que l'on revient aux conditions d'avant la dispute avec le Qatar ou est-ce qu'il y a du nouveau ?
Ce qu'il y a, c'est que donc ils vont accepter l'existence des frères musulmans au Qatar, ce qui était en fait l'essence du problème hein, à l'origine. Donc l'Arabie Saoudite a laissé tomber cette exigence et le Qatar va pouvoir donc continuer comme avant. Alors, ce sera certainement pas entièrement comme avant, mais enfin, ça va tôt ou tard, on va revenir au statu quo ante.
Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite par rapport aux frères musulmans, mais est-ce que selon vous, les autres pays seraient enclins à faire le même type de concession sur cette question en particulier ?
La grosse question, c'est avec les Émirats arabes unis, hein, qui eux sont toujours contre les frères musulmans d'une façon très très importante. Ce qui est un peu intéressant aussi, c'est que ça se rajoute avec un désaccord des Émirats arabes unis avec l'Arabie Saoudite sur la question du pétrole, parce que l'Arabie Saoudite voudrait limiter l'augmentation du pétrole depuis la réunion de l'OPEC. Les Émirats ne voulaient pas le faire, ça. Il y a donc quelques désaccords, il y a des désaccords entre eux sur le Yémen aussi. Donc la lune de miel, si vous voulez, entre les Émirats et l'Arabie Saoudite est en train de se limiter.
Jean-François Seznec, chercheur à l'Atlantic Council et au Middle East Institute, ici même à Washington.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les électeurs de l'État de Géorgie vont jouer un rôle crucial dans la détermination de l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis au cours des deux prochaines années. Ils se rendent aux urnes pour départager au second tour deux sièges du Sénat américain âprement disputés entre démocrates et républicains. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point depuis Atlanta, en Géorgie. Le récit est signé Lionel Gaïma.
Le président Donald Trump s'est rendu lundi en Géorgie. Il a encore une fois décrié la fraude électorale, mais a répété aux électeurs qu'ils doivent se rendre une fois de plus aux urnes pour réélire Kelly Loeffler et David Perdue pour permettre aux républicains de maintenir le contrôle du Sénat. Le Marcotte, un partisan de Trump en Géorgie.
J'avoue avoir voté avec un certain scepticisme à cause de ce qui s'est passé la première fois.
Les partisans du président estiment que vaincre les challengers démocrates John Ossoff et Raphael Warnock est tellement important que cela permettra de surmonter leurs doutes suscités par les allégations de fraude électorale. Mark Ice, un autre partisan de Trump en Géorgie.
Ils vont avoir le pouvoir, la Chambre et le Sénat. C'est le pouvoir le plus extrême qu'ils puissent avoir contre le contribuable. Nos impôts vont augmenter, ils vont essayer de nous enlever nos armes, mais ça peut devenir très moche. J'ai peur que si les démocrates agissent comme ils le souhaitent, cela pourrait devenir vraiment moche.
Le président élu Joe Biden, qui a remporté la Géorgie par moins de 12 000 voix, est lui aussi venu à la rescousse lors d'un meeting lundi à Atlanta.
En élisant John et le révérend, vous enverrez un message puissant à ce pays.
Ces marges étroites dans un État traditionnellement républicain signifient que les démocrates doivent faire un gros effort pour mobiliser les électeurs. Sean Watkins, bénévole de la campagne du candidat démocrate Ossoff.
En fait, je n'étais pas tellement en politique il y a peut-être 2 ans, mais à cause de tout ce qui se passe avec Trump, cela m'a donné envie de sortir et de faire des choses comme ça. Et j'espère vraiment que les gens vont sortir et changer les choses pour le mieux.
Kera Aline, une autre bénévole de la campagne Ossoff.
À mon avis, c'est juste le comportement typique de Trump. Bien sûr, il ne peut pas accepter les résultats si facilement.
Un nombre record de 3 millions de Géorgiens ont déjà participé au vote anticipé.
Si les démocrates remportent ces deux sièges au Sénat, la vice-présidente élue Kamala Harris sera le vote décisif. Après une élection présidentielle très serrée, bien sûr, les résultats pour ces deux sièges de sénateurs de la Géorgie vont encore se faire attendre.
C'est la fin de ce journal. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Gisèle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.